Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série « Le fondement de la rédemption ». Nous arrivons à l'étude numéro 12 et le titre sera « Les prophéties messianiques ». Les prophéties messianiques. À travers l'Ancien Testament, le Christ est regardé comme celui qui vient. Dans l'Ancienne Alliance, l'Évangile éclot. L'Ancien Testament est l'aube du matin. De même que l'aube appartient au soleil, l'Ancien Testament appartient à Christ. L'Ancien Testament raconte ce que Christ est. Le Nouveau Testament dit qui il est et d'une telle manière qu'il revient manifeste que seul connaît Jésus, celui qu'il reconnaît comme étant le Christ et comme étant le seul que nous devons connaître, celui qui sait qu'il est Jésus-Christ. Donc les deux testaments correspondent aux deux noms principaux du Rédempteur. L'ancien se rattache au titre de Christ, celui de sa vocation. Le nouveau se rapporte à Jésus, son nom personnel. Mais les deux sont inspirés par un seul esprit et s'expliquent mutuellement. Le professeur W. Wischer, Das Christuszeugnis, des Alten Testament. Le portrait du Messie dans la prophétie de l'Ancien Testament est universel et approuvé par le professeur Franz Delitzsch. Il dépeint primo la personne du Messie, son humilité quant à la famille, les lieux et les moments, sa divinité sous une forme voilée. Et secondo, l'œuvre du Messie, sa venue en humilité, sa venue en gloire. Donc, premièrement, nous avons la personne du Messie, l'œuvre du Messie. Le Christ était déjà le centre de l'histoire du salut avant de devenir homme. Sa présentation anticipative dans l'Ancien Testament était en même temps une auto-présentation, car l'Esprit de Christ animait les prophètes. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 11. L'histoire pré-chrétienne de la révélation est déjà une histoire de Christ avant sa venue. Nous avons, on l'a vu, son humilité, consciente du but dans sa course à travers les siècles. La prophétie de l'Ancien Testament décrit à l'avance l'humanité du Rédempteur. Elle le fait en une série de cercles concentriques de plus en plus étroits, le but apparaissant comme le sommet effilé d'une pyramide. Et c'est tout d'abord la famille. En effet, le Rédempteur appartient à l'humanité, puisqu'il est la postérité de la femme. Genèse, chapitre 3, verset 15. La chose fut donc annoncé des temps depuis Adam et Ève. Il descend de la famille de Sem, selon Genèse chapitre 9, verset 26. La prophétie en fut donc donnée à Noé, et cela environ 2300 ans avant Christ. D'entre les Sémites, il est de la postérité d'Abraham, Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, comme l'annonça Dieu lui-même vers 1900 avant Christ. D'entre les nations issues d'Abraham, il appartient à la lignée d'Israël, comme le montre la transmission de l'alliance à Isaac et Jacob vers 1850 avant Christ. Notez Genèse chapitre 26, versets 3 et 4, ainsi que le chapitre 28, versets 13 et 14. D'entre les tribus des Israélites, il est issu de la tribu royale de Juda, comme cela fut attesté environ 1800 ans avant sa naissance. Genèse chapitre 49, verset 10 et 1 Chronique, chapitre 5, verset 2 et Hébreux, chapitre 7, verset 14. En fait, c'est Ruben qui avait le droit de premier-né. Pourtant, le Messie n'est pas le lion de la tribu de Ruben, celui-ci ayant perdu ses droits d'aînesse, et cela à cause du péché rapporté en Genèse chapitre 35, verset 22, en même temps qu'il était privé de ses droits relatifs au Messie. 1 Chronique, chapitre 5, verset 1, et Genèse, chapitre 49, verset 3 et 4. Siméon et Lévi, les suivants de ses frères, étaient exclus à cause de leur action sanguinaire à Sichem. Genèse 34, verset 25. À cause de cela, les droits de Ruben, en sa qualité de premier-né, furent partagés comme suite. La double part de l'héritage matériel alla à Joseph en les personnes d'Éphraïm et Manassé. Notez Deutéronome, chapitre 21, versets 15 à 17, et 1 Chronique, chapitre 5, versets 1 et 2. La dignité sacerdotale, notée Exode, chapitre 13, verset 2 et le verset 15, relative à Exode, chapitre 32, versets 26 à 28, allait donc à Lévi, Nombre, chapitre 3, verset 12 et le verset 45. Ajoutez le chapitre 8, toujours des Nombres, versets 17 et 18. Et la dignité royale, notez Genèse chapitre 43, verset 33, et chapitre 48, versets 14, 18 et 19, alla à Juda, quatrième fils de Jacob. 1 Chronique, chapitre 5, verset 2. Telle est donc la raison pour laquelle le Messie est le lion de la tribu de Juda. Apocalypse chapitre 5, verset 5 et Genèse chapitre 49, versets 9 et 10. David, fils couronné de Jessé, voir Ésaïe chapitre 11, verset 1. Le Messie, dès lors, sera le fils de David. Notez Apocalypse, chapitre 5, verset 5. Le nom de David apparaît 986 fois dans l'Ancien Testament et 59 fois dans le Nouveau, c'est-à-dire 1045 fois en tout. À noter que le nom de Jésus apparaît 996 fois. Ainsi, voyez-vous, la promesse se précise ensuite à travers la famille royale de David, des nombreux fils de David. Deux sont devenus transmetteurs de la bénédiction messianique, tels que Salomon et Nathan, tous deux fils de Bathsheba. On peut dire 1 Chronique, il faut noter ces citations, 1 Chronique chapitre 3 verset 5. De Salomon descendait Joseph, père légal de Jésus. Saint Matthieu chapitre 1 verset 6 et 16. De Nathan descendait Marie, sa mère effective, Saint Luc chapitre 3 verset 23 et 31. Strictement parlant, le Christ ne descend pas de la lignée royale principale de Salomon, mais de la lignée collatérale non régnante de Nathan. La première lignée est la lignée légale, la seconde est l'organique et de signification plus profonde. Là, on peut dire que Matthieu donne l'arbre généalogique de Joseph, tandis que Saint Luc présente celui de Marie, ou pour être plus exact, celui de son père Élie, qui n'a rien à faire avec Élie le prophète. Saint Luc chapitre 3 verset 23, qui est le beau-père de Joseph, verset 23, et Néhémie, chapitre 7, verset 63. Le Talmud aussi appelle Marie une fille d'Élie. Ainsi s'explique également Luther, Bengel, Lang et Franz Delitzsch. Nous allons donc toujours citer les citations bibliques aussi possible que ce soit avec beaucoup de sérieux, car c'est important que vous puissiez comprendre que ces études ont été le fait de beaucoup de recherches et de sérieux. Et donc, c'est à vous plus tard de pouvoir vérifier certains versets bibliques pour que vous puissiez être confiant absolu, avoir la confiance que ce qu'on vous enseigne est vraiment rien d'autre que la sainte parole de Dieu. Ainsi, par diffusion graduelle de la lumière, la prophétie avançait du général au particulier, de la fonction au chargé de fonction, du matériel au personnel, c'est-à-dire, en fin de compte, du Christ à Jésus. Par l'Ancien Testament, le Père conduisait au Fils, de même que dans le Nouveau Testament, le Fils conduit au Père. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 28. Comme David, le Christ, au temps de la fin, fera paître son peuple, ainsi que les nations. Et là, on peut noter Ézéchiel, chapitre 37, versets 24 et 25, Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 10, et Jérémie, chapitre 23, verset 5. Mon serviteur David sera leur prince pour toujours, nous est-il dit dans Ésaïe, chapitre 37, verset 25, et die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 22, verset 16. Ainsi peut-on dire que si l'homme parvint à la réalisation de ses désirs, la royauté terrestre immédiate, Dieu n'en maintient pas moins son droit et son dessein qui est le royaume céleste. Avec cette prophétie, dans le cadre de celle plus large des 60 et 10 semaines d'année, l'annonce messianique atteint son point culminant en même temps que sa conclusion. Sache-le donc et comprends bien. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusque à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un ouin sera retranché et personne pour lui. Daniel chapitre 9, versets 25 et 26. Cet oint désigne le Christ et non pas Cyrus, comme certains commentateurs ont pensé. Les 70 semaines, les septaines, représentent chacune 7 années. Un Israélite comme Daniel n'avait aucune peine à comprendre ce langage, car la loi mosaïque reconnaît chaque 7e année comme étant une année sabbatique. Lévitique chapitre 25, verset 4. Les 7 plus 62 semaines représentent donc 483 années jusqu'à loin, c'est-à-dire le Messie. Je répète, les 70 ou 70 semaines, les septaines, représentent chacune 7 années. Un Israélite comme Daniel n'avait aucune peine à comprendre ce langage, car la loi mosaïque reconnaît chaque 7e année comme étant une année sabbatique. Lévitique 25, verset 4. Donc les 7 plus 62 semaines d'année représentent donc 483 ans jusqu'à loin, c'est-à-dire le Messie. Cette période commence au moment où est prononcé l'ordre de rebâtir Jérusalem. Daniel, chapitre 9, verset 25. Cette mention ne peut se rapporter à l'édit de Cyrus, car ce dernier, en 536, concernait principalement la reconstruction du temple. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 23, et Esdras, chapitre 1, verset 1 à 4, ainsi que le chapitre 5, toujours de Esdras, chapitre 5, verset 13 à 15, et ajouter aussi le chapitre 6, verset 3 à 5. Ce que entreprirent le prince Zorobabel, le souverain sacrificateur Josué, ainsi que les prophètes Agée et Zacharie en l'année 516. Là, vous pouvez noter Esdras, chapitre 5, verset 1, chapitre 6, verset 14 et 15. La reconstruction de la ville ne devint effective que plusieurs décades après, avec le prêtre Esdras, le gouverneur Néhémie et le prophète Malachie. Leur activité commença avec le décret du roi perse Artaxerxès Ier. On l'appelait aussi Longamanus, en la 7e année de son règne, en 465 jusqu'en 424. En relation avec la réorganisation politique de la Palestine, soit en l'année 457 avant Christ. Esdras, chapitre 7, versets 25 et 26. Le commencement de l'activité d'Esdras correspond donc au commencement des 70 semaines. Il est vrai que Néhémie n'a pas pu commencer la construction de la muraille que plusieurs années après des années 445. De sérieuses difficultés avaient donc surgi et ont arrêté la pose des fondations. Le premier décret n'en est pas moins le commencement et le point de départ, en un mot, l'ordre de reconstruire la ville. Si à cette date nous ajoutons les 69 semaines d'années prédites, soit 483 années, cela nous amène aux années 26 à 27 de notre ère, c'est-à-dire en l'année où, selon Saint Luc chapitre 3 versets 1 et 2, Jésus commença peu après Jean-Baptiste à proclamer le message du royaume céleste. En effet, lorsque le Seigneur apparut en public, il avait environ 30 ans, donc il avait 30 ans, selon Saint Luc chapitre 3 verset 23, et puisque Hérode le Grand était encore vivant au moment de sa naissance, Saint Matthieu chapitre 2. Là aussi, l'accomplissement a donc confirmé la prophétie, et cela de la manière la plus étonnante. La prophétie de l'Ancien Testament serait exactement déterminée et annoncée le Rédempteur dans son humanité, étant en ce qui concerne la famille que le lieu et le moment de son apparition. Deuxièmement, nous avons le pressentiment prophétique de la déité du Messie. La déité du Messie est également indiquée dans l'Ancien Testament, quoique il soit juste de souligner qu'elle ne l'est que d'une manière voilée et principalement sous la forme de figures et d'énigmes. Nous la trouvons d'abord d'une manière relativement claire dans la prophétie de Nathan. Là, il a dit « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » 1 Chronique, chapitre 17, verset 13. Sur cette base, David appelle son fils du nom de Seigneur. Psaume, chapitre 110, verset 1, et Saint Matthieu, chapitre 22, versets 44 et 45. Et David, un type du Christ, descend de son trône pour déposer sa couronne aux pieds de celui qui est assis à la droite de Dieu, et qui est le vrai David. Osée, chapitre 3, verset 5, et Ézéchiel, chapitre 37, versets 24 et 25. La résurrection de Jésus-Christ, selon Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 33, et Romains chapitre 1, verset 4, cette résurrection, disons-le en passant, fut comme la promotion du Christ. D'une vie vécue comme un serviteur à la vie d'élévation, c'est un engendrement à la condition royale. Ésaïe, à son tour, montre par une image la déité du Messie en le décrivant comme le rameau d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 11, verset 1. Le tsemach, le germe de l'Éternel. Ésaïe 4, verset 2. L'admirable conseiller, il est le Dieu puissant, il est le Père de l'âge, il est le Prince de la paix. Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6. Pour Michée, il est celui dont l'origine remonte au temps ancien, oui, au jour de l'éternité. Michée, chapitre 5, verset 1, et pour Jérémie, il est Yahvé, notre justice, Jérémie 23, verset 6, et pour Malachie, il est Yahvé que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, Malachie chapitre 3, verset 1. Troisièmement, nous avons l'œuvre du Messie. La personne et l'œuvre du Messie ont été considérées par les prophètes en un harmonieux contraste opposant d'une part son humanité, d'autre part sa déité. De la même manière, ces mêmes prophètes établissent le contraste que forme son œuvre sous les deux aspects de son humiliation et de son exaltation, ces souffrances de Christ et cette gloire dont elle devait être suivie. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 11. Tel est tout le contenu de leur prophétie. Chers amis, en une peinture minutieuse, réellement sublime, les prophètes brossent un tableau de sa première venue, sombre arrière-plan de sa gloire rayonnante. Veuillez donc, s'il vous plaît, noter les très nombreuses citations bibliques. C'est important pour que plus tard vous puissiez constater que tout cela est vraiment la sainte parole de Dieu et rien d'autre. Tout d'abord, nous avons la naissance à Bethléem. Notez Michée, chapitre 5, verset 1, et Saint Matthieu, chapitre 2, verset 1. Nous avons son apparition publique en Galilée, selon Ésaïe, chapitre 8, verset 23, et Saint Matthieu, chapitre 4, verset 12 à 16. Nous avons la bonté et sa douceur, selon le psaume 69, verset 9, et Saint Jean, chapitre 2, verset 17, et Saint Matthieu, chapitre 21, verset 12. Nous avons ses miracles et ses guérisons, Ésaïe 53, verset 4, et Saint Matthieu, chapitre 8, verset 16 et 17. Nous avons son entrée à Jérusalem, Zacharie chapitre 9, verset 9, et Saint Matthieu chapitre 21, verset 4 et 5. nous avons la rage de ses ennemis. Psaume, chapitre 2, versets 1 à 3, et Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 25 à 28. Nous avons la désertion de ses amis, Zacharie, chapitre 13, verset 7, et Saint Matthieu, chapitre 26, verset 31. Nous avons les 30 pièces d'argent pour lesquelles il a été vendu, Zacharie, chapitre 11, verset 12, et Saint Matthieu, chapitre 26, verset 15. Nous avons son côté percé, Psaume 22, verset 16, et Saint Jean, chapitre 20, verset 25 à 27. Nous avons ses os qui ne furent point brisés, Exode, chapitre 12, verset 46, Psaume 34, verset 21, et Saint Jean, chapitre 19, verset 31 à 37. Nous avons le tirage au sort de ses vêtements, Psaume 22, verset 18, et Saint Matthieu, chapitre 27, verset 35. Nous avons le vinaigre qui lui fut offert, Psaume 69, verset 22, et Saint Matthieu, chapitre 27, verset 48. Nous avons son cri de souffrance dans la détresse, Psaume 22, verset 1, et Saint Matthieu, chapitre 27, verset 46. Nous avons son cri de victoire, que tout est accompli, Psaume, chapitre 22, verset 31, et Saint Jean, chapitre 19, verset 30. Nous avons le coup de lance du légionnaire, Zacharie, chapitre 12, verset 10, et Saint Jean, chapitre 19, verset 34 et 37. Nous avons sa résurrection le troisième jour, Psaume, chapitre 16, verset 10, et Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 25 à 31, et vous pouvez ajouter Osée, et oui, Osée, chapitre 6, verset 2. Et nous avons son ascension aux cieux, Psaume 110, verset 1, et Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 34 et 35. À travers tout cela, il se présente comme le serviteur de Dieu, souffrant et victorieux dans l'œuvre complète, la rédemption est accomplie. Ésaïe, chapitre 53. C'est la plus merveilleuse prophétie de l'Ancien Testament. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 32 à 35. La deuxième venue du Christ est elle aussi dépeinte avec les couleurs les plus vivantes et les plus magnifiques. Les prophètes, selon la loi de la perspective prophétique, voient souvent, comme en une seule image, les faits relatifs au devenu. Exode, chapitre 61, versets 1 et 2, et Saint Luc, chapitre 4, versets 18 à 20. Couronné de la double couronne d'or et d'argent, selon Zacharie, chapitre 6, versets 11 à 13, et de la royauté et du sacerdoce de Melchisédek, Psaume 110, verset 4. Le Messie règne donc en justice sur tout son royaume, revêtu d'une septuple plénitude de l'esprit, selon Ésaïe chapitre 11, versets 2 à 4. Ensuite, voici quelques-unes des gloires de ce fameux âge d'or. Tout d'abord, nous avons la conversion et l'unité d'Israël. Notez Osée, chapitre 3, verset 5, chapitre 2, verset 17 à 19, Ésaïe, chapitre 11, verset 9, Sophonie, chapitre 3, verset 13, et Ézéchiel, chapitre 37, verset 15 à 22. Nous avons là le renouveau pour les nations. Notez Sophonie, chapitre 3, verset 9. Nous avons la paix parmi les peuples, selon Michée, chapitre 4, verset 3 à 4. Nous avons la bénédiction répandue sur la nature, Ésaïe 11, versets 6 à 8, et Osée, chapitre 2, versets 23 et 24. Et nous avons l'augmentation de l'éclat du soleil et de la lune, selon Ésaïe, chapitre 30, verset 26. L'Ancien Testament se présente ainsi comme un ciel piqueté d'étoiles, de même que le nouveau est semblable à un jour pleinement ensoleillé. Il n'y a aucune parole du Nouveau Testament qui ne regarde vers l'Ancien dans lequel il est annoncé d'avance, car le Nouveau Testament n'est rien d'autre qu'une révélation de l'Ancien, exactement comme s'il en avait d'abord une lettre cachetée et par la suite on l'aurait ouverte. La première mention de l'avènement de la Nouvelle Alliance, Gabriel à Zacharie, Saint-Luc, chapitre 1, versets 5 à 17, se rattache aux dernières prophéties messianiques de l'Ancienne Alliance, Christ étant l'oméga de l'Ancien Testament et l'alpha du Nouveau Testament. Et pour terminer notre étude, nous avons le silence de Dieu. Les prophètes ont parlé. Ils ont parlé pendant des millénaires. Dieu se révéla lui-même d'abord à l'humanité en général et ensuite à Israël en particulier. Depuis Moïse surtout, il y a eu une chaîne ininterrompue de messages prophétiques. Alors soudainement, après la prophétie de Malachie, Dieu est devenu muet. Dieu se retira dans les cieux élevés et garda le silence, un silence et une attente qui allait durer 400 ans. Ici-bas, dans la vallée des larmes, l'humanité a eu à attendre le Rédempteur promis pendant environ un demi-millénaire. Déjà tout ce qui devait être dit avant l'apparition du Sauveur était déjà dit. 400 années avant la naissance du Christ, la révélation vétérotestamentaire était complétée et close. Pour quelle raison, dans ce cas, fallut-il aux croyants d'Israël cette rude discipline de l'attente, cette intervalle qui va de Malachie à Jean-Baptiste. Pourquoi le Christ n'est-il pas venu au temps de Malachie? Oui, pourquoi? La réponse réside en ceci. La révélation à Israël n'était que l'un des aspects de la préparation à l'Évangile. Il fallait encore que cette préparation atteignît l'ensemble du monde et de la civilisation. C'est précisément ce qui arriva dans le temps qui s'écoule entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Les royaumes du monde y entrèrent dans l'optique de la préparation au salut, spécialement par Alexandre le Grand et l'Empire romain. Si Dieu, en ce qui concerne la révélation, était devenu silencieux, il agissait par contre à travers les événements du monde. C'est surtout le livre de Daniel qui apporte un peu de lumière sur la nuit de ces 500 années. L'exposé du salut dans la Sainte Bible connaît deux longues périodes sans révélation, l'époque qui s'étend entre Malachie et Jean-Baptiste d'une part, et celle qui va du Christ à l'établissement du royaume d'autre part. Cette dernière a déjà duré près de 2000 ans. Les deux se rapportent au temps des nations. Saint-Luc, chapitre 21, verset 24. La lumière de ce premier temps de silence, est le livre du prophète Daniel, le prophète des nations. Le rayon lumineux, semblable à l'étoile directrice pour le second de ces silences, est l'Apocalypse de Saint Jean. Le livre de Daniel a été donné au sein de l'ancienne alliance, et cela au début de la nuit qui va de la première destruction de Jérusalem en 586 avant Christ à la première venue du Seigneur. L'Apocalypse de Saint Jean a été donné au sein de la nouvelle alliance au début d'une nouvelle nuit qui, de la seconde destruction de Jérusalem en 70 après Christ, et ira jusqu'à la seconde venue du Seigneur. Les deux s'appartiennent ainsi, le premier étant la contrepartie du second, et celui-ci étant le complément de celui-là. Chers amis, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, terminer par la prière et ensuite j'essayerai de vous mettre quelques chants pour terminer ce CD. Évidemment, ces chants sont plus tellement nets, parfaits, car je les ai pris il y a plus de 50 ans, c'est vieux, sur des cassettes. En ce temps-là, j'avais fondé une mission sur cassette. Or, le système des cassettes était beaucoup plus facile que de faire ce travail que je fais sur CD, pour la seule raison que une cassette, vous pouviez vous arrêter n'importe quand. S'il y avait une erreur, vous pouviez reculer et recommencer de là où était l'erreur. Ce qui est absolument impossible sur un CD. Il faut donc étudier très très minutieusement son texte, bien l'assimiler, le mémoriser, et ensuite pouvoir le parler, si possible, sans tousser, sans cracher, sans éternuer, ce qui, à mon âge, peut arriver, à mon grand âge. Et donc, il faut faire cela d'une seule fois. Avoir une maîtrise totale et une discipline absolue et une concentration, je ne vous le dis pas. Vous l'avez compris. Prions donc maintenant. Seigneur, quand nous venons nous humilier devant toi, t'apportons-nous des cœurs dépris des vanités du monde et pleins de foi et d'amour pour toi. Sentons-nous qu'en toi seul sont les vrais biens et notre trésor est-il dans les cieux? Ou sommes-nous tellement dominés par l'attachement aux choses de la terre que même au pied de ton trône de grâce, il puisse étouffer en nous la ferveur et nous rendre impossible de recueillement? Si nous venons à toi, ô Dieu, dans cette disposition funeste, à quoi peut-il nous servir de nous prosterner et de te prier? En vain, nos mains s'élèveraient suppliantes vers le ciel, nos âmes rampent sur la terre, nos cœurs y sont étroitement liés. Ton amour, le salut, l'éternité sont des mots, pour ainsi dire, complètement vides de sens pour nous. La vie présente, les biens terrestres, voilà les seules préoccupations véritables et sérieuses. Et cependant, chacun de nous ne peut-il pas à toute heure entendre retenir à son oreille ces paroles terribles, insensées? Cette nuit, ton âme te sera redemandée. Que d'exemples n'avons-nous pas sans cesse de ces appels subits, de ces arrêts imprévus, de ces mots, on peut dire sérieuses, et aussi nous avons les maladies qui sont souvent cruelles, qui saisissent avec violence et ne laissent à l'esprit aucune force, aucune connaissance pour se tourner vers le ciel. N'attendons donc pas à faire notre paix avec toi, Seigneur, mais donne-nous ton secours pour détacher nos cœurs de ces biens périssables qui n'auront plus pour nous aucun prix au dernier moment de notre vie et qui sont si redoutables puisqu'ils captivent nos pensées, nos affections et les détournent de toi. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Allons donc à la source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Allons à Christ, qu'il soit lui notre vie, et la mort nous sera un gain. Seigneur, aie pitié de nous. Sauve-nous ou nous périssons. Exauce notre prière dans ta miséricorde pour l'amour de Jésus-Christ et daigne nous aider à te dire dans un sentiment sincère l'amour filial. notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit respecté, honoré, sanctifié, que ton règne s'établisse et que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme elle s'accomplit au ciel. Donne-nous aujourd'hui la nourriture dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous avons nous-mêmes pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Et ne nous soumets pas à l'épreuve, mais au contraire, délivre-nous du tentateur, car c'est à toi qu'appartiennent pour toujours, pour l'éternité, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Et maintenant, je vais essayer de vous mettre, comme je vous ai dit, quelques chants d'il y a, hélas, plus de 50 ans. Essayons.
Away, and my night was turned to day. Future in heaven for sure, with those mansions sublime. And it's because of that wonderful day, when at the cross I did.